Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru en 1985, La dynamique du capitalisme condense les grandes recherches de Fernand Braudel sur la formation de l'économie moderne entre le XVe et le XVIIIe siècle. Cet essai d'histoire économique ne propose ni une théorie abstraite du capitalisme, ni un récit centré sur les seuls inventeurs et gouvernants. Il observe plutôt les échanges ordinaires, les villes, les réseaux de crédit, les grands négociants et les centres successifs de l'économie mondiale. Historien majeur de l'école des annales, Braudel privilégie les structures lentes et les rapports entre échelles locales, nationales et internationales. Sa thèse la plus marquante consiste à distinguer nettement l'économie de marché du capitalisme. La première relève largement d'échanges visibles et concurrentiels, tandis que le second prospère dans les opérations lointaines, les privilèges, les positions non dominantes et les liens avec les pouvoirs publics. Le livre vise ainsi à déplacer les définitions spontanées du capitalisme et à montrer comment il s'appuie sur le marché tout en cherchant fréquemment à s'affranchir de sa concurrence. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, trois niveaux économiques pour comprendre la naissance du capitalisme. Braudel organise son analyse autour de niveaux économiques superposés qui empêchent de réduire une société à ses seules transactions commerciales. À la base se trouve la civilisation matérielle, domaine de la subsistance, des habitudes de consommation, de l'autoconsommation et des contraintes quotidiennes. Ce niveau évolue lentement et rappelle que de larges fractions de la population ont longtemps vécu à la marge des circuits monétaires. Au-dessus se déploie l'économie de marché, faite de boutiques, de foires, de marchés urbains, d'artisans et de négociants opérant dans des échanges relativement réguliers. Enfin, le capitalisme occupe le sommet de l'édifice. Il mobilise de gros capitaux, le crédit, l'information et les réseaux à longue distance. Cette stratification a une conséquence analytique décisive. L'expansion des échanges ne signifie pas automatiquement l'expansion du capitalisme, puisque la majorité des échanges peut demeurer locale, fragmentée et concurrentielle. Inversement, une minorité d'acteurs peut obtenir des profits disproportionnés en contrôlant des routes, des approvisionnements ou des financements. Braudel invite donc à étudier simultanément les pratiques ordinaires et les mécanismes de puissance. Son modèle explique pourquoi les transformations économiques sont inégales selon les régions et pourquoi les formes les plus sophistiquées de l'accumulation ne remplacent pas immédiatement les économies du quotidien. Deuxièmement, le capitalisme comme zone de privilège plutôt que comme simple libre concurrence. L'apport le plus provocateur de Braudel réside dans sa séparation entre économie de marché et capitalisme. Dans le langage courant, les deux termes sont souvent confondus. Or, pour lui, le marché renvoie d'abord à des échanges relativement transparents, où les prix sont visibles et où plusieurs vendeurs peuvent se concurrencer. Le capitalisme, au contraire, se situe volontiers dans des espaces moins ouverts. Les grands opérateurs disposent d'informations privilégiées, de relations politiques, de réserves financières et de réseaux internationaux qui leur permettent d'éviter les risques ordinaires de la concurrence. Ils recherchent les exclusivités commerciales, les monopoles, les contrats avantageux et les occasions d'acheter à bas prix pour revendre là où la demande est forte. Cette perspective ne prétend pas que tout grand commerce est identique ni que les marchés populaires sont parfaitement équitables. Elle établit plutôt une différence de position et de pouvoir. Un petit marchand dépend davantage des prix publics et de la concurrence immédiate, tandis qu'un financier ou une grande maison commerciale peut influer sur les conditions mêmes de l'échange. La formule de contre-marché désigne ainsi cet espace supérieur où le profit découle moins du jeu concurrentiel que de la capacité à le contourner, à le canaliser ou à le dominer. Elle demeure utile pour interroger les liens entre concentration économique et liberté effective des marchés. Troisièmement, les économies mondes et le déplacement des centres de commandement, Braudel étudie le capitalisme à l'échelle des économies mondes. C'est-à-dire des ensembles organisés autour d'un centre dominant et reliés à des périphéries inégalement intégrées. Cette approche refuse de traiter chaque pays comme une unité économique autonome. Les villes et les États participent à des circuits plus vastes de marchandises, de métaux précieux, de crédits et d'informations, dont les bénéfices sont répartis de manière très inégale. Braudel suit notamment le déplacement historique des pôles dominants de Venise vers Anvers, Gênes, Amsterdam puis Londres. Cette succession ne doit pas être comprise comme une simple liste de capitales commerciales. Chaque centre concentre à un moment donné des capacités particulières de financement, de coordination des échanges et de décisions. Il attire les flux les plus rentables tout en s'appuyant sur de nombreuses régions productrices ou intermédiaires. L'idée permet aussi de comprendre que la domination économique n'exige pas toujours le contrôle direct de toutes les activités productives. Le centre tire sa force de sa position dans les réseaux, de sa maîtrise du crédit et de son aptitude à orienter les échanges à distance. En mettant l'accent sur ces hiérarchies, Braudel fournit une histoire de la mondialisation pré-industrielle. Il montre que l'interconnexion internationale est ancienne, mais que ses effets dépendent toujours de rapports de force, de distance et de capacités institutionnelles concrètes. Quatrièmement, la longue durée contre les explications fondées sur un événement unique, la dynamique du capitalisme applique la méthode de la longue durée associée à Braudel. Au lieu d'expliquer le capitalisme par une rupture unique, telle que la révolution industrielle ou une décision politique particulière. Le livre observe des transformations qui s'accumulent sur plusieurs siècles. Les formes du commerce, les infrastructures, les habitudes de consommation, les techniques de crédit, les structures urbaines et les relations entre États et négociants n'évoluent pas toutes au même rythme. Cette pluralité des temps historiques est essentielle à son raisonnement. Les crises, les guerres et les innovations comptent, mais ils prennent leur sens dans des cadres plus persistants. Une conjoncture favorable peut accélérer les affaires sans créer à elle seule les réseaux, les institutions et les inégalités qui rendent une expansion durable possible. De même, l'industrialisation représente une mutation majeure sans constituer, chez Braudel, le commencement absolu du capitalisme. Des pratiques capitalistes de financement et de commerce à grande distance existaient déjà avant elle. Cette méthode conduit à examiner les continuités derrière les changements visibles. Elle protège également contre les récits trop linéaires qui feraient du progrès technique la cause exclusive de l'histoire économique. Pour Braudel, comprendre le capitalisme exige de relier les événements rapides aux cadres matériels et sociaux qui limitent, permettent ou orientent les choix des acteurs. En dernier lieu, États, marchés nationaux et industrialisation dans une trajectoire non linéaire. Braudel ne présente pas le développement économique comme le résultat spontané d'un marché libre qui s'étendrait naturellement. La constitution des marchés nationaux dépend de communications plus efficaces, de règles communes, de la circulation monétaire, de la sécurité des routes et de l'action des pouvoirs politiques. Les États contribuent à unifier certains espaces, mais ils accordent aussi privilèges, protections et monopoles. Ils ne sont donc pas simplement extérieurs à l'économie. Leur relation avec les grandes affaires peut consolider les positions dominantes autant qu'elle peut soutenir l'élargissement des échanges. Cette observation complète la distinction entre marché et capitalisme. Le capitalisme historique n'apparaît pas comme l'absence de pouvoir public, mais comme une activité souvent capable de négocier avec lui et de tirer parti de ses instruments. L'industrialisation modifie ensuite l'ampleur de la production, des investissements et des marchés, sans effacer d'un coup les structures antérieures. Braudel insiste ainsi sur les combinaisons entre commerce, finance, industrie et pouvoir territorial. Cette lecture nuance les oppositions simples entre État et marché, ancien monde marchand et monde industriel, ou économie locale et économie globale. Elle permet d'analyser les transformations économiques comme des processus institutionnels et géographiques. La richesse ne dépend pas seulement de la production de biens, mais aussi du contrôle des circuits par lesquels circulent capitaux, informations, marchandises et protections politiques. En conclusion, la dynamique du capitalisme s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire économique, de sciences sociales et de relations internationales qui souhaitent comprendre les origines lointaines des structures économiques contemporaines. Il convient aussi aux lecteurs non spécialistes, car sa forme resserrée donne accès aux grandes idées de Braudel sans exiger la lecture immédiate de l'ensemble de son œuvre monumentale. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir des distinctions plus précises que les oppositions habituelles entre marché, commerce, industrie et capitalisme. Le lecteur apprend à repérer les écarts entre la concurrence visible des échanges ordinaires et les avantages plus discrets liés au crédit, à l'information, à la taille des réseaux ou au soutien politique. Cette grille ne livre pas une recette pour interpréter mécaniquement le présent, mais elle aide à poser de meilleures questions sur la concentration, les monopoles et la mondialisation. Le livre se distingue des histoires économiques centrées sur une invention, une doctrine ou une révolution unique. Braudel privilégie les rythmes longs, l'articulation des échelles et l'observation des pratiques matérielles autant que des institutions. Il évite ainsi de faire du capitalisme une essence immuable ou un simple synonyme du marché. Sa force tient à cette vision historique ample où l'économie est inséparable des villes, des États, des réseaux commerciaux et des inégalités de pouvoir. C'est une introduction exigeante mais particulièrement féconde à une histoire structurelle du monde moderne. Si vous souhaitez soutenir Fernand Braudel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.